On peut commencer?
Oui, les enregistreurs sont ouverts.
OK. Mes premiers mots seront pour remercier Paul pour la confiance qu'il m'a faite que je fasse un petit délus ce matin sur l'espérance. Après ma barre, sur quelle langue qu'on devait prendre ça, moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais vous raconter un petit fait de ma vie qui s'est passé dans mon enfance. Mais pas plus tard qu'hier, j'avais une rencontre avec ce qu'on appelle des ateliers d'écriture. Et on avait un travail à faire qui nous demandait pour vous, quelle est votre force dans votre vie? C'est parce que moi, vraiment, après réflexion, je me suis dit, bon, ma force, c'est de savoir ce que veut dire celui qui veut, peut. Pour aller avec l'espérance, voyez-vous. Alors, pour revenir justement avec mon petit fait de ma jeunesse, j'étais en quatrième année. Au début des années 60. Puis pour ceux qui se souviennent de ce temps-là, on avait des bulletins à tous les mois et ça, c'était important, les bulletins, à ce moment-là. Puis j'avais un frère qui était un an plus jeune que moi, mais on allait dans le même, on était dans le même degré, parce que moi, j'avais commencé un an plus tard. Puis on avait un an différent. Fait que, lui, mon petit frère, tout le temps, il réussissait tout le temps mieux que moi au niveau de son bulletin. Mais, un mois donné, imaginez-vous que j'ai réussi à dépasser. Ce fut pour moi tout un événement. Moi, pour cet événement-là, c'est...
Parce que le micro est fermé. Là, faut le baisser. Là, ça marche.
OK. Moi, pour cet événement-là, ça a été le premier pour dire qu'il m'a fait voir ce que j'appelais peut-être pas seulement, mais c'était de l'espérance. J'espérais de pouvoir finir meilleur que mon frère, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai vécu toutes sortes de choses qui font que pour moi, l'espérance, c'est ça qui me fait vivre. Faut aussi dire que dans ma jeunesse, et même un peu plus vieux, au moment où j'étais jeune adulte, souvent on me disait, René, tu pourras pas faire ça. René, tu pourras pas faire ça. Mais moi, dans ma petite tête, me disais, je m'ai expérimenté moi-même. Fait que j'ai souvent expérimenté des choses de même qui ont fait que j'ai réussi. Puis ce qui fait que, vers l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'aller à l'université. Je n'avais pas de cégep. Encore là, on me disait, René, tu vas avoir l'ouvrage, ça va être dur, tu ne réussiras pas. Fait que je lui ai dit, on verra bien, je fonce. J'espère de réussir, puis moi, quand je dis j'espère, c'est positif. Toute l'année. Ça fait que effectivement, j'ai commencé à l'université à Trois-Rivières. Et j'ai fini par avoir et un bac et un certificat de l'Université du Québec. Pour moi, là, c'est des réussites que je peux que je peux mettre sur le dos de l'espérance. Alors, j'ai tout le temps espéré, puis je m'ai tout le temps continué d'espérer. Puis, aujourd'hui encore, je fais du théâtre amateur, puis j'espère, je dis tout le temps, j'espère qu'on va faire des bonnes pièces, puis on y réussit finalement. Parce qu'à fond, le message que je veux vous lancer, espérons tous ensemble, puis si on veut, on peut. Merci. Oui, ok, c'est bien. Oui.
Jean-Claude demande si tu veux. Veux-tu descendre ou tu veux rester avec moi? Moi, ça ne me fait rien, ça me fait
okay,
plaisir.
Ok, mais restez ici. Mais de ça, il va mieux t'entendre.
Oui, il faut que je l'entende. Se dépasser. Je pense que René, on pourrait dire qu'il a dit l'essentiel, hein? Quelqu'un me demandait en entrant, contre toute espérance, il dit, qu'est-ce que c'est ce titre-là? Puis c'est vrai que c'est un peu frappant. Espérer contre. Ce que René nous a dit, il espérait pour se dépasser, pour réussir, pour faire son université. Contre toute espérance. Alors je répondais à... Bon, je ne me souviens plus, je trouve son nom, là. Celui qui me disait ça, contre toute espérance, ça, c'est du Saint-Paul tout craché. Ceux qui un peu fréquentent les lectures de Saint-Paul, c'est un homme qui il a une plume extraordinaire, un discours très percutant, très fort. Et il aime beaucoup utiliser, mettre en lumière les oppositions pour affirmer la parole de Dieu qu'il a renversée. Disons que son expérience elle-même, vous le savez, l'expérience de Paul, c'est une expérience assez renversante, assez contradictoire. Il part à la recherche de ces espèces de traîtres au judaïsme, les chrétiens qui suivent un homme dénommé Jésus, pour les éliminer. Et voilà qu'il devient l'apôtre de ce Jésus-Christ qu'il combat. Alors, espérer contre toute espérance, c'est tiré de Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, dit saint Paul, puis là il va chercher le prophète, je ne sais pas si on peut l'appeler le prophète, mais en tout cas le père de toute la foi juive et chrétienne, Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et la foi lui fut comptée. Bon, vous le connaissez bien, c'est Abraham. André Breton nous en a parlé, je pense, dans un samedi de la parole. Je ne parlerai pas d'Abraham comme tel, mais juste rappeler cette histoire-là, c'est qu'il avait 99 ans. Sa femme, 90 ans. C'est un beau couple, c'est à peu près de notre âge, à mon avis, cela. Et puis, dans quelques années. Oups, ça n'a pas l'air aimé, ça. Et Dieu vient visiter, hein, à travers des personnages, trois hommes. On voit tout de suite un peu déjà la Trinité, hein. C'est avant Jésus-Christ, évidemment, avant que ce soit révélé. Et puis, il lui dit, Dieu, à travers ses visiteurs, « Je bénirai Sarah, et même, je te donnerai d'elle un fils. » Abraham tomba la face contre terre. Il se mit à rire, car il se dit en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et sera qu'à 90 ans va-t-il enfanter? » C'est resté comme ça, mais il a eu la visite encore une fois de Dieu, sous l'apparence de personnage. Plus tard, donc, Yahvé lui apparaît et dit, « L'an prochain, ta femme Sarah aura un fils. » C'est autour de Sarah qui se met à rire en elle-même. Elle avait cessé d'avoir ses règles. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir d'enfanter. » Genèse 18, 12, 13. Alors voilà, c'est de ce texte biblique dès le premier livre de la Bible. C'est de ce texte biblique qu'on a tiré le thème pour l'espérance. Cette année, pour ceux qui ne savent pas, c'est toute l'année, c'est sur l'espérance. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'espérer contre toute espérance? Contre, ça veut dire ça n'a comme pas de bon sens. C'est contre la logique normale que Dieu promet quelque chose à Abraham. D'ailleurs, souvenons-nous que Dieu utilise toujours des situations invraisemblables pour nous allumer, pour nous faire la leçon, disons pour nous éduquer dans la foi. J'écoutais Jean Vanier ce matin, ou plutôt je le disais, et puis il parlait de cette dimension de l'Évangile qui est d'aller vers les plus pauvres, hein, les béatitudes. Bon, vous le connaissez bien, je n'ai pas besoin de développer plus, mais nous voyons donc que Abraham, malgré la contradiction, l'invraisemblance, l'impossibilité humaine d'avoir une descendance, puis pas n'importe quelle descendance, Dieu lui a dit, ta famille et tes descendants sont aussi nombreux que le sable de la mer. Alors, on a compté combien il y a de grains de sable près de la mer. Il y en a plusieurs, hein, ceux qui l'ont compté. Abraham, stérile, ben, pas lui, mais sa femme stérile, est le père de nombreuses nations. Qui ou quoi est, qu'est-ce qui est contre nous dans l'espérance? On est tous des gens qui essayent d'espérer. Mais à quoi est-ce qu'on s'affronte? Dans une prière du Bréviaire, un matin, je lisais cette affirmation. C'était sous forme d'une intercession. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être un lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Voilà, c'est à partir de ces mots-là que j'essaie de regarder avec vous à quoi est-ce que notre espérance se bute. C'est quoi cet esprit du monde qui n'a pas beaucoup d'espérance ou qui a les oreilles, les yeux fermés à l'espérance ou qui s'oppose à notre espérance? Qui sont les railleurs, les moqueurs contre lesquels notre espérance se bute? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais même dans ma parenté où c'est des amis, des gens qui me disent, eux qui ont pris un peu de distance, même beaucoup face à l'Église, face à la foi, vous êtes des pelleteux de nuages. Avez-vous déjà entendu ça? Hein? Bon, on se reconnaît. Vous êtes des pelleteux de nuages avec votre croyance en Jésus. L'Église est dépassée, elle est plus moderne, elle est plus adaptée au monde actuel. C'est ce que nous vivons de nos jours d'une façon, je pense, assez aiguë. Croire comme Abraham et la vieille Sarah que la vie peut naître, que l'espérance peut vivre et nous faire vivre, n'est-ce pas un peu croire que la vieille Église peut encore faire naître la foi en Jésus-Christ dans un monde très hostile à la foi chrétienne? Moi, je pense que oui, et puis je pense que notre pape actuel est en train de le démontrer. Il a fondé une espèce de comité des sages, ou en tout cas le G8 de Rome, avec 8 cardinaux, je crois, et justement pour regarder clairement et agir assez rapidement pour réformer l'Église. Parce que c'est vrai qu'elle a des ankylose un peu dans les jambes, dans les bras, dans la voile. Puis elle doit, d'ailleurs, il y a Proverbe latin qui dit « Église semper reformanda », c'est-à-dire en bon français, l'Église est toujours en train de se rénover, de se réformer, pour être fidèle à Jésus. Parce que c'est top, Jésus, quand on est des êtres humains, fragiles, péchants, comme on est tous, j'espère que vous l'êtes, bienvenue dans le club, c'est pas facile de suivre profondément l'appel de l'Évangile. J'emprunte les mots de Jean Vanier aussi pour parler de ce monde moderne soumis à la superficialité. C'est dans An Art for the Poor, Un Arche pour les Pauvres. Je vais laisser. Les valeurs de l'efficacité, du pouvoir, de l'argent et du plaisir sont devenues super importantes dans notre monde d'aujourd'hui. Ces valeurs tendent à éliminer les valeurs de compassion, d'humilité, de présence aux personnes sans pouvoir. Les médias de masse nourrissent et encouragent cette vision enracinée dans quoi? Dans la force, dans l'extériorité et dans l'apparence. Parce que dans notre monde, l'apparence, l'extériorité, la force, c'est les parties les plus importantes actuellement. Et M. Vanier ajoutait... Et il ajoutait, nous avons toujours besoin de personnes qui nous rappellent où trouver la force et la paix intérieure. Cette force, cette paix intérieure, c'est, voilà le soutien de l'espérance chrétienne. Donc, on peut reconnaître dans cette attitude dominante de notre monde que cela, en suivant le monde, cela rend les gens rassasiés. Mais rassasiés de quoi? De nourriture qui se perd. Pas très nourrissant, l'efficacité, la richesse, le pouvoir, etc. Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim de la vraie nourriture, de la vraie boisson qui rassasie l'âme et qui donne la paix et qui nourrit l'espérance. En disant non à Dieu, à l'éternité, à ce paradis qui nous attend, l'éternité bienheureuse, qu'on appelle habituellement le paradis, le ciel, la vie éternelle. Quand on refuse ça, qu'on dit, bon, on va se réincarner. Moi, je trouve ça absolument ridicule, parce que si tu te réincarnes, donc d'autres se sont réincarnés avant toi, montre-moi les, ils ont l'air de quoi. Finalement, tu tournes en rond, comme le hamster dans sa cage. Jésus n'est pas venu parler de réincarnation, mais de résurrection. J'aimerais utiliser un exemple moderne pour essayer de voir c'est quoi les bases, les forces de notre espérance. Vous connaissez ça, un GPS. Qui ici ne connaît pas un GPS? Levez la main. Ben, j'ai mon voyage. Tout le monde sait c'est quoi un Geo-Positioning System. Alors, le géopositionnel système, le GPS, c'est pas compliqué. C'est un appareil qui a trois points de repère dans le ciel. Vous savez que le ciel, maintenant, est habité en plus des anges. Il y a les satellites. C'est merveilleux, c'est la découverte de l'homme. Alors, il y a trois satellites avec trois points de repère, tu peux savoir exactement où tu es. Deux, tu ne sais pas parce que ça peut aller d'un bord à l'autre, mais avec trois, il y a moyen de te repérer. Alors, je n'explique pas plus le GPS. J'espère que vous savez vous en servir. Mais nous aussi, les chrétiens, on a un GPS avec trois points de repère excellents, incontournables, et qui nous aident à traverser la vie. Quels sont les trois points de repère des disciples de Jésus que nous sommes? La foi, l'espérance et l'humilité. Tiens, tout le monde connaît bien ces points de repère. Parlez-moi de ça. Ces trois points de repère font comme opposition, ou en tout cas nous protègent, si vous voulez, contre le pouvoir, l'argent, le plaisir, qui sont les points de repère humains. Hein? Et ceux qui nous voient nous positionner sur la foi, croire en Dieu, croire en l'éternité, croire en Jésus, croit qu'on est habité par Dieu, croit que nous sommes une âme, c'est-à-dire nous avons une âme, non, nous sommes animés, nous sommes dès maintenant vivants pour toujours, à notre naissance on essaie pour l'éternité, il y a un petit bout de temps que la mort, mais ça ne dure pas longtemps, croit en l'espérance, croit en la charité, aimer les gens qui ne nous aiment pas. Le monde a de la misère à valider ce GPS. Ces trois points de repère, foi, espérance et charité, on s'appelle vertu théologale. Alors, c'est un mot grec ou latin, je ne sais plus. Non, je pense que c'est grec. En tout cas,
grec.
Hein, c'est grec plutôt. J'ai besoin d'un savant comme lui à côté de moi. C'est grec. Alors, théo, ça veut dire quoi?
Dieu.
Dieu.
Logos. Logos et Dieu. Étude.
Étude? Pas pire, ça. Théo, logal, étude. En fait, logos, ça veut dire, moi, j'ai trouvé une autre traduction, ça veut dire parole, expression, étude. Alors, les vertus théologales, faut que je retrouve bien ma définition pour ne pas m'aider, là. Les vertus théologales, ah oui, ça veut dire une vertu qui parle de Dieu, qui nous fait étudier Dieu, si on pourrait employer l'expression que René nous donnait. C'est une vertu qui nous parle de Dieu, qui vient de Dieu, qui nous connecte à Dieu. La prudence, la générosité, les autres vertus, là, ce sont bien utiles, la politesse, etc. Mais les vertus théologales, indispensables pour la foi. Ah ben, la foi est là-dedans, d'ailleurs, indispensable pour vivre à la suite de Jésus-Christ. Autre chose que je voudrais exprimer sur l'espérance, c'est que l'espérance n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. L'espérance chrétienne a un visage, Dieu lui-même. Dieu lui-même espère. Hein? Dieu espère. Voyez-le dans la parabole de l'enfant prodigue. Le père, c'est le perron, qui scrute l'horizon, qui attend que son fils revienne. Dieu est le premier espérant. Il espère comme un père, une mère qui attend son enfant pour célébrer son retour. Parce qu'il espère inlassablement le retour de son fils prodigue. Donc, c'est une vertu qui naît de Dieu, l'espérance. C'est une vertu théologale qui nous parle de Dieu qui naît de lui et lui-même l'a vu. Personne n'est exclu de l'espérance chrétienne, car elle réside en Dieu qui ne déçoit jamais. Je suis en train de citer le cardinal Martini. Personne n'est exclu de l'espérance chrétienne, dit-il, car elle réside en Dieu qui ne déçoit jamais. Elle est l'espérance de tous, des bien portants, des malades, des vivants et des morts. Fin de citation. J'ai devant moi la photo de notre petite amie Rose Boivin. On a parlé de Paul, Laurette Lepage, Muriel et l'autre, Louise, je pense. Hein? Comment?
Lucie.
Ouais, je les connais tous. Tout aussi bien que Rose et Laurette. Et puis, bien, peut-être que dans 3-4 mois, il y a un de nous autres qui va ajouter son nom sur la liste. Mais, peut-être moi d'ailleurs, c'est avec eux que nous espérons. Quand on dit que l'espérance, c'est l'Église, ou que c'est une des caractéristiques de l'Église, c'est pour les vivants et ceux qui sont déjà au ciel. Espérons qu'ils espèrent pour nous. Dans la foi chrétienne, donc, on pourrait dire que l'espérance, c'est quelqu'un. Benoît XVI disait même, et c'était assez fort, la crise actuelle de la foi est surtout une crise de l'espérance chrétienne. Quand l'espérance est en crise, les deux autres vertus claquent des dents. Hein? On dit quand le monde, quand le... quelqu'un a froid, quand une personne a froid, quand la jeunesse a froid, c'est ça l'expression. Quand la jeunesse a froid, toute l'humanité claque des dents. Vous avez déjà entendu l'expression, je ne sais pas qui, Bernadotte, ça parle. Bixon? Bernadotte, oui. Quand la jeunesse a froid, l'humanité entière claque des dents. Actuellement, on est pas mal à claquer des dents. Mais, quand l'espérance fait défaut, les trois vertus claquent des dents. Quand la charité aussi fait défaut, les trois vivent ensemble. Mais la racine de l'espérance, c'est notre foi. C'est la foi chrétienne. La foi dans la miséricorde de Dieu et dans sa bonté. C'est ce qui nous fait dire, contre tous les railleurs qui se moquent de nous, contre même le bon sens, dans le fond, d'une logique purement humano-humaine, là, animale, pratiquement, animal intelligent, mais animal quand même, de dire qu'il y a un au-delà, c'est comme difficile à croire. Donc, pour nous, l'espérance s'enracine dans notre foi. Et on pourrait dire, pour elle, la troisième vertu, elle va se développer, s'exprimer dans la charité. Je ne développe pas beaucoup, par exemple. Nous sommes tous conscients, c'est-à-dire nous sommes tous, oui, disons conscients ou témoins, nous sommes tous touchés. Nous sommes tous touchés par des personnes qui, au-delà de toute espérance, ont espéré et ont réussi. Je pense que ce que René nous a dit en quelques minutes résume bien un exemple de quelqu'un qu'on connaît qui a osé dépasser ses limites par l'espérance. Je pense à ceux qui nous ont quittés dernièrement. On a parlé de Paul, de Rose, de Laurette. Je pense à Nelson Mandela qui est mort hier. Nelson Mandela est pour l'humanité entière. D'ailleurs, c'est un croyant. Hein. Je ne sais pas s'il était de l'Église anglicane ou catholique, mais j'ai vu justement hier ou aujourd'hui, dans une de ses paroles, qu'il faisait référence à Dieu. Hein. Cet homme-là qui a réussi ce que jamais... Bah, peut-être Gandhi l'a réussi, mais quoi que ça a chauffé. Quand Gandhi a réussi à faire libérer l'Inde, il y a eu quand même beaucoup de morts, de violences. Tandis que pour l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a réussi à éradiquer l'apartheid, à battre les barrières entre les Anglais qui dominaient l'Afrique du Sud et les Noirs, et entre les tribus des Noirs qui se battaient entre eux. Dans la paix, dans le dialogue. C'est extraordinaire. Voilà des exemples d'espérance. Ça s'enracine dans la foi en quelque chose ou en quelqu'un. Reprenons la phrase de Benoît XVI qui disait « Espérer, c'est jeter l'ancre vers la béatitude éternelle. » C'est important de croire au ciel. C'est important de croire en l'éternité. C'est pas des contes de ma grand-mère, tout ça. Là. Vous connaissez sûrement ce texte de je ne sais pas quel livre de l'Ancien Testament, mais je ne l'ai pas cœur, je ne sais pas fouiller où. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et mais c'est dans l'Apocalypse, pas dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse, oui. Il parle du retour du Christ. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux et de mort, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. Ce que Jésus est venu à réaliser, rendre possible, c'est cela. C'est un bonheur éternel qui nous est assuré et la foi, c'est de croire en cela. Une espérance que même pas la mort ne peut entamer. Une espérance qui s'ouvre sur la perspective de la béatitude éternelle. Un règne avec Dieu, un règne de Dieu dans le paradis. Notre demeure définitive. Voilà le but, le terme de notre espérance. J'ai le goût de vous lire plus en entier ce que disait Benoît XVI. Espérer, c'est jeter l'ancre dans l'au-delà. Il disait, les premiers chrétiens représentaient l'espérance comme une ancre. Savez-vous ça? Oui, yes. L'espérance, le signe d'espérance, c'est l'ancre. Vous savez probablement, vous connaissez mieux le signe du premier chrétien qui est le poisson. Hein? Pourquoi? Pourquoi?
Ictus.
Ictus. Je savais qu'il savait les mots. Ictus en grec, c'est I-C-T-A-T-T, d'accord? U-S. Ictus. Quand j'étais à Saint-Aurélie, j'avais fait une grosse croix en bois avec des 4x4. J'avais planté ça sur le bord du chemin. Laurent Jean-Baptiste passait à peu près 4 autos par mois. Là. On était pas mal isolés. Et j'avais écrit Ictus. C'est I pour Jésus. K pour Christos, Jésus-Christ. T, Theta en grec, pour Théos, Dieu. U pour Uios, les hommes, tous. S pour Sauveur. Jésus-Christ, Sauveur des hommes. Un poisson, ça veut, en grec, c'est Ictus. Puis les initiales font la phrase Jésus Christus, Sauveur. Les hommes ne me rappellent plus. Hein, quoi, le mot, c'est quoi les hommes
en grec? Français, hein?
En grec.
Poisson.
Homme.
Je ne sais pas, mais je suis qu'en français, c'est.
En tout cas.
La théologie.
Oui, oui. Ah oui. En tout cas, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, si vous voyez un poisson, pensez à Jésus. Et si vous voyez un ancre, pensez à l'espérance. C'est bon d'avoir des symboles comme ça. Oups, ça vient de sauter, ça. Bon, je vais te laisser faire parce que vous voulez me tromper. On va profiter de prendre un coup.
C'est fils de Dieu.
Ah oui, ça serait temps de faire un chant, Hitler. Ben oui.
Jésus-Christ, fils de Dieu.
Mais qu'est-ce que c'est que
Sauveur. Oui, c'est pas sûr, pas sauveur des hommes.
Ah oui, oui.
Et là, c'est
oui, oui, oui. Et là, c'est fils, hein? Un petit peu grâce à mes deux savants qui connaissent la grecque. I-K-T-U-S veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu. Uios, c'est fils. C'est pas sauveur du monde, c'est fils de Dieu. Théos, Uios, sauteur. Jésus-Christ, le fils de Dieu. Bon. Les dernières paroles de Matthieu nous indiquent que ce bonheur, cette béatitude, cette réalité merveilleuse d'éternité, qu'on peut la vivre maintenant. Je m'appuie sur Matthieu 28, 20, qui dit en Saint-Matthieu, justement, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et moi, je suis avec vous, pas juste au-delà de la mort, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, notre espérance, on veut dire Dieu, c'est notre espérance, Dieu lui-même espère, on peut dire que notre espérance, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est de savoir que baptiser en Jésus-Christ, comme je pense qu'on vient de chanter, je n'ai pas écouté beaucoup, soyons témoins de l'espérance solidaire du monde, notre Notre existence comme baptisé, comme membre de l'Église, comme des personnes qui ont dit un oui à la foi en Jésus et qui ont été plongées dans l'eau par-dessus la tête. Bon, évidemment, le baptême se fait pas de cette façon, mais le symbole reste exactement le même. Puis même si j'étais petit bébé, c'est grâce à la foi de mon oncle Armand puis ma tante Léona, ma tante Anna, mon père et ma marraine, que ma foi a progressé. Puis je vous avoue franchement qu'ils m'ont aidé, avec mes parents aussi, mes parents. Donc, on est baigné dès notre enfance, la plupart d'entre nous, dans ce baptême, cet acte de foi, cette plongée en Jésus, dans la résurrection de Jésus, dans la mort et résurrection de Jésus, nous dit Saint Paul. Mais l'expérience chrétienne se vit dans un contexte douloureux, difficile. Bien, c'est un peu le sens du mot « contre » toute espérance. Notre monde est un monde brisé. Travailler pour le royaume de Dieu, espérer, nous engager dans le règne de Dieu, nous engager dans l'Église, dans la communauté chrétienne, dans foi et partage, dans notre vie familiale, c'est un travail éreintant. C'est une corvée fatigante. C'est un ouvrage harassant. Il faut l'admettre. Dans ce sens-là, Paul parle de la difficulté à maintenir l'espérance. Je reviens toujours, d'ailleurs, je pense que d'autres qui ont parlé de l'espérance sont revenus à ce texte de Charles Péguy. La petite sœur espérance, les trois vertus théologales, puis il dit, il y a la foi, c'est une grande vertu, et la charité, c'est une grande vertu, puis il dit, entre les deux grandes sœurs, il y a la petite sœur espérance qui est au milieu, puis qui les tient par la main. Moi, je l'imagine les mains en l'air, comme quand une mère se promène avec son petit bonhomme. Elle a les mains en bas, puis lui a les mains en l'air. Son petit bonhomme, sa petite bonne femme. Alors, la toute petite espérance entre les deux. Puis Péguy fait dire à Dieu, cette petite espérance m'étonne beaucoup. Parce que la foi, c'est évident, on a juste à regarder la création. Je pense que je vous ai déjà raconté cette expérience-là que j'ai vécue avec, en tout cas, je la raconte de nouveau, avec Bénédicte Vanier. J'allais le voir à Saint-Romuald, chez les Trappistines, pour me rencontrer, jaser un peu avec lui. Et puis, c'est un peu mon directeur spirituel quand j'étais à l'Arche. Et puis, en se promenant à un moment donné, en se promenant avec les belles fleurs que les bonnes sœurs cultivaient, il dit, Paul, il dit, moi, j'admire, non, il dit, pour être athée, je crois qu'il faut beaucoup de foi. Athée, ça veut dire sans la foi, sans Dieu. J'ai dit, je ne vous comprends pas, mais Bénédicte. Ben, il dit, regarde les belles fleurs. Pour dire que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas un créateur merveilleux, qui a créé les fleurs, les animaux, les forêts, les océans, les humains, pour douter de la grandeur de Dieu, pour ne pas croire en Dieu, il faut un méchant acte de foi. Ça a bien du bon sens, hein? Il faut la foi pour douter. Alors, entre donc nos deux grandes sœurs, se promène la petite espérance. Mais, comme je disais, ce n'est pas facile. Je vous rappelle tout simplement, les nouvelles nous disent que c'est pas facile. Hier encore, on parlait de, ou avant-hier, ou il y a quelque temps, du typhon Haiyan. On nous a parlé il y a quelques mois de catastrophe, tremblement de terre d'Haïti. Pour ce qui est des Philippines, là, j'ai noté, j'ai été chercher ces nouvelles-là le 14 novembre, mais je pense que aussi septembre du 6 décembre, donc d'avant-hier, ou c'est ça, ou hier, un total de 11 800 personnes ont été touchées par cette catastrophes, ce typhon. Les plus vulnérables, les femmes et les enfants, les personnes âgées, les handicapés, sont toujours ceux qui souffrent le plus pendant ces catastrophes. On peut dire avec Apocalypse, « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sens d'habitants de la terre? » C'est pas étonnant qu'on implore le Seigneur à grands cris. C'est pas étonnant qu'à chaque Eucharistie, on commence par dire, « Seigneur, prends pitié, prends pitié. » Puis on se rappelle toutes les fragilités qui nous touchent. N'est-ce pas le cri qui monte en nous quand nous entendons aux nouvelles des drames qui vivent dans l'humanité? Que tant de personnes parmi nos proches, on s'en proche d'eux, hein? Quand on entend parler des femmes et des enfants qui entendaient qu'actuellement le drame aux Philippines, là, c'est pas tellement qu'il y a eu beaucoup de morts, ça c'est dramatique, mais c'est qu'ils n'ont plus de nourriture non plus, ils ont plus, tout est détruit, donc ils ne savent pas où aller pour manger. Manger chaque jour. On sent, ça nous touche tous, puis je ne suis pas sûr que de temps en temps, on ne se prive pas un peu plus les semaines où on entend ces grandes souffrances. Oui, c'est pas facile, contre toute espérance. Maintenir l'espérance. Mais, comme je disais, on n'est pas tout seul parce que Dieu est avec nous. Dieu lui-même espère, Jésus-Christ est notre espérance. Et une autre dimension que je veux développer rapidement, c'est que elle ne peut pas se vivre tout seul. On ne peut pas espérer tout seul. L'espérance est nécessairement communautaire. Nécessairement solidaire, nécessairement communion des saints, corps mystique. C'est des belles expressions, hein, ça, le corps mystique. Nous formons le corps mystique. De temps en temps, j'essaie de réfléchir sur la beauté de ces deux mots. Un seul corps, Saint Paul qui développe ça, c'est encore mon beau grand Saint Paul avec son langage extraordinaire qui dit « Nous ne formons qu'un seul corps ». Nous sommes un corps avec des membres, puis il y a toutes sortes de membres. Il y en a qui sont plus dignes, d'autres moins. La grosse orteille, disons que c'est un membre qui ne paraît pas beaucoup, mais qui est important pour ne pas tomber, pour pouvoir marcher. Les bras, la tête, les yeux, les oreilles. Nous sommes un seul corps. L'Église est un corps. Foi et partage, on se sent incorporé. On est incorporé légalement, Jean-Claude? Oui, même légalement, on était incorporé. Non, c'est juste pour nous faire penser à cette dimension-là. On forme un corps. Nous sommes le temple de la présence de Dieu. Je lisais ça dans le missel, là, pour l'Avent. Dieu nous a créés pour être le temple de sa présence, l'accueil de sa présence qui nous conduit à la lumière sans fin. On entre dans l'Avent cette semaine. On entre justement dans cette grande, c'est pas tellement long, mais c'est quand même quelques semaines, 4 semaines, je pense, d'une espérance qui va s'illuminer le 25 décembre, où toute la planète va fêter. Curieux, hein, comment? Toute la planète n'est pas chrétienne, mais Noël, la naissance du Sauveur, on pourrait dire quand même les païens, la reconnaissent, la fête avec nous. Il a fait un peu de croche avec le vieux bonhomme en rouge, là, moi qui m'écœure un peu, mais en tout cas, les enfants peut-être voient plus loin que moi. Mais la naissance de Jésus, nous sommes en avant. Avant qui vient du latin, nous dirait René, aventus, l'arrivée, mais qu'on peut écrire avant ONT, en précédant la naissance de Jésus. Nous sommes dans ce temps où ensemble, nous pouvons nous préparer à la nuit lumineuse de Noël. Je dis qu'on ne peut pas vivre l'espérance sans être ensemble, sans être en communauté, sans être un seul corps. Un de mes amis, Bernard Lemelin, que peut-être quelques gens ont connu, disait « Il faut se mettre à plusieurs. » Lui, il était capucin, dans l'ordre de Saint-François. Il dit, pour imiter saint François d'Assise, il faut se mettre à plusieurs. Tellement cet homme-là est grand. Puis c'est vrai que c'est un grand témoin, comme Marthe Robin, comme Thérèse de Calcutta, comme ces grands personnages, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est malisé à éviter. Imiter. Et je dirais, en paraphrasant cette phrase-là, il faut se mettre à plusieurs pour croire en Dieu, pour adhérer au message de Jésus, pour nous engager derrière lui, le cœur tout brûlant à l'écoute de ses paroles si fortes, si belles et si vivantes. D'ailleurs, notre nom de notre communauté ou fraternité, on n'est pas une communauté qui vit ensemble, on n'a pas de vœux, mais on se rassemble les derniers samedis du mois et en d'autres occasions, c'est foi et partage. Partager, ça veut dire recueillir ce que toi tu peux m'apporter, parce que si nous formons un seul corps, chaque partie du corps, chaque membre de foi et partage a quelque chose à apporter. Plusieurs d'entre nous, on était là au service de la petite Rose. Elle nous dit sous son petit carton, « Je ne vous quitte pas, je veille sur vous, ce n'est qu'un au revoir. » Alors, elle est avec nous aujourd'hui. Et puis, elle a pris le cantique des créatures comme prière, parce qu'elle était franciscaine, ce que je ne savais pas, était dans le tiers-ordre, puis était même présidente, responsable de son groupe de tertiaire, le tiers-ordre de Saint-François, à Saint-François d'Assise, à Limoilou. Alors, nous sommes tous, chacun a un rayon de lumière à donner. On regarde en haut, on regarde autour, on se voit les uns les autres parce qu'il y a de la lumière. Il y a le soleil, bien sûr, mais il y a aussi des petites lumières. Tellement que ça nous a revenu pour lire sur l'écran tantôt. Nous sommes tous nécessaires les uns des autres. Il faut se mettre à plusieurs pour croire en Dieu, pour adhérer au message de Jésus, pour vivre l'Église. Si la foi et l'espérance qu'on a reçue de Jésus n'existaient pas dans l'humanité, pouvez-vous vous imaginer de quoi ça aurait l'air? Nous avons vu ça regarder toutes les réalisations sociales, humaines, solidaires qui ont été parties grâce à la foi en l'Évangile de Jésus. Implantées, pas toujours, mais souvent par des disciples de Jésus. Je pense aux hôpitaux. Qui a lancé les premiers hôpitaux ici dans cette ville à Québec? Les religieuses, des femmes de Dieu. Les écoles, les organismes de bienfaisance, il y en a encore des nouvelles qui surgissent quasiment toutes les années. Hein. À l'occasion de Noël, les guignolés. C'est tous des signes que l'espérance est vivante. Et c'est toutes comme des lumières qui font que si la traversée de la vie est difficile, elle est vivable à cause de ça. Ce n'est pas le désespoir qui est au bout. C'est l'espérance qui nous fait tenir. Comme je disais, c'est dans l'Église aussi que se vit l'espérance. Bien, aussi en dehors, mais l'Église est quand même le grand modèle, si vous voulez, le grand lieu où, ensemble, nous sommes nourris du message de Jésus et que nous essayons de le vivre. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous continuerons comme d'habitude dans les équipes pour parler de notre espérance. Chacun, nous essaierons de nous communiquer un peu les uns les autres quelle est l'espérance qui nous fait vivre. Et je termine avec une petite réflexion. Ah, un chant, oui, un chant après ça aussi, bien sûr, une petite réflexion. Grâce à la foi, nous pouvons regarder avec réalisme vers le futur qui nous attend et nourrir une espérance fiable et j'en J'emprunte des mots du pape François que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a la parole tellement simple, tellement directe, tellement belle, tellement éclairante. Hein. Il dit, ne nous laissons pas voler l'espérance. Donc, nourrir une espérance fiable sans nous la laisser voler par les autres. Dans un échange admirable, la foi, l'espérance et l'amour constituent le dynamisme de la vie de l'homme qui s'ouvre aux dons provenant de Dieu. Amen.
Amen.
Et nous allons adorer plutôt que chanter. Nous allons chanter dans notre cœur en adorant sinon.